Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire.
Et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Chalvidan, une femme qui nous a particulièrement marqué par son dynamisme, son énergie solaire et surtout son sens de l'humain. Elle intègre le groupe TF1 en 2007, où elle va être nommée, il y a un an tout pile, directrice des productions sport. Son rôle, superviser l'ensemble des productions sportives du groupe, émissions, magazines, directs d'événements, documentaires. Et aujourd'hui, elle est devenue une pièce maîtresse de la stratégie sport de TF1, dans un univers particulièrement masculin. Et comme si cela ne suffisait pas, elle s'investit aussi auprès d'associations solidaires et de soutien à l'insertion. Avec autant de force et de générosité mêlée, c'était bien sûr une évidence pour nous que de la recevoir dans Femmes en Lumière.
Bonjour Céline.
Bonjour à vous.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Ben, c'est très intimidant avec tout près tout ce que vous avez dit, mais c'est déjà bien introduit. Donc je suis Céline, j'ai 43 ans, je suis effectivement à TF1 depuis bientôt 18 ans et au service des sports depuis 2010, depuis la Coupe du Monde 2010, et donc effectivement au poste de directrice des productions sport depuis un an maintenant. Donc on est pas mal occupé.
Et alors, est-ce que tu te destinais dès le début à devenir responsable production sport? Quel est ton parcours un petit peu?
Ah ouais, non, pas du tout. C'est vrai que comme beaucoup d'entre nous, en troisième, quand il
voilà,
faut se décider,
c'est ça, quand t'es ado.
On n'imagine pas du tout ça. Moi, je pensais plutôt faire un profil créatif. J'adorais le dessiner, j'adorais l'art. Donc j'ai fait J'ai fait un bac d'art appliqué, donc vraiment rien à voir. Je pensais être graphiste. Et puis au fur et à mesure de l'année du bac, je voyais bien que mes copines étaient beaucoup plus à l'aise que moi dans le dessin. Elles étaient beaucoup plus douées, donc il a fallu quand même à un moment donné se dire que c'était pas fait pour moi. Et puis par hasard, j'ai découvert la production vraiment par une copine qui voulait faire de l'image, un BTS image, et donc elle me montre le fascicule de son école et je découvre la production. J'étais alors chef scout, et donc c'est du bénévolat quand on est chef scout, et on organise des week-ends, des camps scouts, on gère des ados, moi j'avais les 14-18 ans. Et puis je me dis, mais en fait dans le descriptif, c'est exactement ce que je fais déjà là pour les week-ends en bénévolat. Bah, en vrai, je me suis pas trompée, parce que gérer des journalistes en tournage, ça reprend à peu près gérer des ados en week-end, ça marche aussi. Donc finalement, je me suis renseignée, j'ai passé des entretiens et puis
je me suis pas trompée. Mais tu avais quel âge à cette époque ?
Écoute, j'étais en terminale, donc du coup c'était pour le BTS, donc je sais plus trop quel âge j'avais, il a redoublé une fois ou deux, je sais plus trop, à 18
donc,
ans.
Donc finalement le dessin t'inspire, mais tu es appelée par la gestion d'équipe, etc.
Exactement.
Donc tu changes d'orientation. Qu'est-ce qui t'a convaincue ? Est-ce que c'est le rapport avec les scouts ? Tu le disais un petit peu, mais qu'est-ce que tu as aimé dans cette gestion d'équipe ? C'est quoi qui t'inspirait ?
Je crois que ce que j'ai aimé tout de suite, c'est de faire partie d'être un maillon d'une chaîne, en fait. Mmh. C'est que du coup, alors nous, on est vraiment les métiers de l'ombre totalement, mais en fait, sans nous, il se passe rien. Et en fait, on est au cœur du système. On est en lien avec la technique, avec la réalisation, avec les journalistes, avec l'artistique justement qui va. On assiste aux réunions des briefs pour de l'habillage, pour la création de musique.
Donc en fait, je crois que les décors, exactement, les plateaux,
exactement les décors, les plateaux, c'est exactement ça. Donc du coup, moi, ça touche à toutes les cordes que l'esprit d'équipe, le côté créa, même si moi je dis pas que le bleu doit être moins bleu et le vert moins vert, mais tu fais partie de toute cette chaîne, et je crois que c'est ça qui me plaît, de pas avoir de routine aussi, et c'est ça qui fait que c'est hyper intéressant comme métier, quoi.
D'accord. Donc ensuite, elle te présente ce fascicule, ok. Donc toi, tu passes un concours pour l'école de BTS, donc il y a un BTS production qui existe.
BTS audiovisuel. Et après, t'as plusieurs options, image, montage, post-prod.
Et donc tu te spécialises toi à ce moment-là dans la prod. Et donc tu te retrouves en stage.
Oui, tout à fait. En stage, ouais, j'ai fait une première un mois de stage sur l'émission Les Amours, et du coup je m'occupais des candidats, et c'était la première fois où je découvrais un plateau télé. J'avais adoré l'ambiance, le côté hyper je sais pas, convivial, hyper joyeux. Enfin, vraiment, je m'étais sentie vraiment tout de suite à l'aise. Les candidats, c'était hyper sympa. Ils étaient un peu stressés. Et moi, du haut de mes 18 ans.
Ouais, c'est ça. Oui, non, mais tout va bien se passer. Alors,
tu les rassurais, tu faisais la nounou des candidats.
Exactement. Et donc, ça m'avait vraiment
énorme.
Beaucoup plu.
Ouais. Et, mais donc, en quoi ça consistait? Qu'est-ce qu'on te demandait de faire, du coup, en stage?
Bah, déjà l'accueil. Donc, okay. On avait un listing. Ils s'étaient inscrits à l'avance. Donc, okay. On vérifiait qu'ils étaient bien présents. Enfin, c'était pas foufou, mais pour moi, c'était une responsabilité de folie.
Ouais, c'est ça.
C'était génial. Donc, ils arrivent. Et puis, on vérifiait qu'ils étaient bien à leur place. Ils se posaient dans les loges. On leur donnait un verre d'eau. Quand c'était leur temps de passer, on les faisait rentrer. On rentrait à les questions. Parce que, du coup, en fonction des questionnaires, on les remplissait dans le logiciel. Enfin, voilà, c'était pas fou. Mais pour moi, je me suis éclatée.
T'étais au taquet, vraiment, quoi. D'accord. Bon. Et alors après ça?
Alors après ça, il y a une deuxième année.
T'as ton BT, voilà.
Exactement. Okay. Deuxième stage, là, chez Arte, très différent. Arte
autre
Vidéo,
ambiance.
Autre ambiance, mais ouais. Pareil, très différent. Donc du coup, je me dis, vraiment, je crois que j'ai trouvé ma place. C'est pas que un hasard si je suis là. Je suis vraiment très, très
Pourquoi
heureuse.
Pourquoi tu te dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Parce que
ça
justement, toutes les missions, en fait, premier stage, c'était un stage sur un plateau. Donc là, je me disais, waouh, le côté un peu paillette, incroyable, ouais, hors de l'ordinaire, hors du commun.
Ouais.
Et puis après, le deuxième stage, l'année d'après, je suis dans les bureaux, on prépare les tournages. Sur l'émission Le Dessous des Cartes, il y avait des enregistrements. Enfin,
ah oui, c'est
vraiment
notre ambiance que les Amours.
Exactement.
Là, on est d'accord.
Et j'aimais la même manière, si tu veux, de préparer. Je me suis découvert assez organisée. J'aimais tout préparer, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, je crois que j'adore ce job, quoi.
Ouais.
Donc voilà, donc j'ai passé mon diplôme que j'ai eu.
D'accord. Et alors, okay, après le diplôme?
J'ai arrêté. J'avais tellement envie de travailler que j'ai arrêté après mon BTS. Je me suis lancée dans l'aventure et donc j'ai trouvé un stage derrière mon BTS. Je trouvais un stage de 6 mois dans une production de documentaire. Et puis après, ça s'est vraiment super bien enchaîné. J'ai été intermittente pour cette boîte-là, justement. À la fin de mon stage, ils m'ont embauchée en pige. Et puis après, une pige, et puis une autre pige, puis une autre pige. Et puis le réseau...
C'était toujours en lien avec les plateaux télé?
Non, du tout. Non. C'est vraiment du documentaire. Donc vraiment à ce moment-là...
C'est-à-dire, c'était quoi comme type de documentaire?
Il y avait tout. Il y avait pour toutes les chaînes de télé. Il y avait du France Télévisions, pour les chaînes Planète, il y avait beaucoup de choses. Et c'était principalement qu'est-ce qu'on avait fait, ça commence à dater. On avait fait un gros documentaire, je me souviens, sur Cuba, où ça avait été très touchy parce que à la frontière, on avait des problèmes, il avait fait les revenir, on avait fait un doc, une série de docs qui s'appelait Enfance dans la lumière, je me souviens encore, c'était mon premier doc sur lequel moi j'ai...
Ah tiens, alors c'était pas les femmes dans la lumière,
mais c'était des enfants, voilà. En fait, des enfants qui ont un talent, qui étaient doués dans soi, dans, il y en a qui faisaient de la chanson, d'autres qui étaient un peu apprentis comédiens, ils avaient 12 ans. Et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'il fallait switcher toute la journée entre on parle de Léa 12 ans, c'est Romain, 8 ans. Enfin,
d'accord, bon, et toi, ton rôle dans la prod, parce que tu as choisi cette spécialité-là, dans l'audiovisuel, du coup, il y avait plein de possibilités, tu as choisi cette voie-là, en quoi ça consiste exactement, du coup?
D'une manière générale, la production, à quoi ça consiste, c'est... en fait, tu l'as dit, tu as utilisé le mot supervisé tout à l'heure, c'est vraiment ça. En fait, pour prendre un exemple, on travaille sur l'émission Téléfoot, qui est une émission hebdomadaire en direct tous les dimanches. Bon, le journaliste qui va caler son interview, une fois qu'il a organisé un rendez-vous à telle heure avec le joueur, nous on prend le relais et on va dire, ok, tu vas où? Tu vas à Marseille, ok, tu y vas à quelle heure? Ah, c'est à 8h le matin, ok, bon, alors est-ce qu'il faut que tu partes la veille? Il faut un hôtel. Tu tournes où?
C'est la logistique,
exactement.
C'est gérer le budget, la logistique.
Exactement, okay. C'est ça. C'est qu'en fait, notre rôle à nous est de faire en sorte que quand le journaliste il arrive sur le tournage, il n'a à penser que sa partie à lui. Ouais. Son écriture, son sujet, exactement.
Okay.
Et que le point de rendez-vous, le fait que le cadreur soit prévenu, la logistique, tu l'as dit, les autorisations, exactement, quand il revient à la rédac, derrière, ça va suivre sur la planification des montages. Tout ça, c'est nous qui gérons tous les petits détails qui font que tout est,
tout se passe bien,
est fluide. Exactement.
D'accord. Et donc, ça demande donc un côté très technique. Enfin, toi, ça t'a demandé d'apprendre à manier.
Alors oui et non, c'est-à-dire que voilà, les codes absolument, ouais, le vocabulaire totalement, et ouais, la production, il en existe plein, de production de musique, de radio, de cinéma. Nous, les sports, c'est un peu particulier parce que justement, on a une partie technique qui est assez importante, qui est pas forcément le cas dans d'autres émissions en direct, mais forcément quand on doit réceptionner des signaux de matchs de foot, pour que ce soit pour téléfoot ou carrément pour produire les matchs, eh ben même si on n'est pas technicien, il faut quand même qu'on ait qu'on sache de quoi on parle.
Bah oui, de quoi on parle.
Et puis surtout, on tire les cordons de la bourse, parce que comme c'est nous qui déclenchons toutes les actions, si on ne sait pas de quoi on parle, du coup, on peut nous donner un devis qui soit pas le reflet de la réalité. Quoi.
Ouais.
Donc oui, la technique, ça s'apprend et ça fait partie vraiment intégrante de notre job, c'est vrai.
Et alors, pour ceux qui nous écoutent, parfois l'univers de la télévision intrigue et on se dit oui, mais c'est un milieu qui est tellement loin de moi que je pourrais jamais y rentrer. Est-ce que tu avais déjà des contacts, toi, dans ce milieu de la télé, dans la production? Parce qu'on peut se dire oui, non, mais elle a été spistonnée ou c'est très dur de rentrer dans un milieu quand même qui est assez clos. Est-ce que tu peux nous en parler?
C'est une super question parce qu'on me la demande souvent, ça, en me disant mais oh là là, mais moi j'y rêve, mais je pouf là là, c'est impossible. Bon alors honnêtement, moi je connaissais personne. Mon papa, il est pas du tout, il est auteur et criminologue, donc rien à voir. Maman, elle est sociologue, enfin vraiment, mais rien à voir du tout. Je fais pas du tout partie de ce milieu-là. En revanche, et ça c'est peut-être un vrai conseil pour les jeunes qui vont nous écouter, c'est que le réseau, il se fait déjà à l'école. C'est-à-dire en fait, nos premières années d'école, c'est notre réseau de demain. À ce moment-là, et ben c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier stage. C'est un de mes copains de promo qui lui avait été beaucoup plus efficace que moi dans ses recherches de stage, et puis il a eu la chance d'en avoir deux d'un coup, puis il en avait choisi un. Et il a dit bon, enfin voilà, moi je suis pas dispo, mais par contre, ma pote Céline, elle est super, prenez-la. Bon eux, du coup, c'était plus simple pour eux, ils n'avaient pas à repartir à rechercher.
Ça, c'était le stage pour où?
C'était le stage après mon BTS, après l'école, dans la boîte de documentaire.
Dans la boîte de documentaire.
Et c'est un peu celle-là qui m'a lancée, parce qu'après, ça m'a fait mes lignes dans mon CV, et puis après,
sauf que ce que tu nous as raconté, c'est que la boîte de documentaire ferme à un moment donné.
Ah oui, c'est une bonne mémoire, tout à fait. C'est vrai qu'on se dit ça avant, absolument.
La boîte de documentaire ferme, et donc là, tu te retrouves quand même.
Exactement.
Et alors, qu'est-ce qui se passe alors?
Voilà. Et ben, le réseau, toujours pareil, en fait. Ce réseau que tu te construis, donc, première étape, vraiment à l'école. Et puis finalement, pendant les années de stage, tu croises beaucoup de monde. Des pigistes, des cadreurs, des monteurs, d'autres gens à la prod, des intermittents. Et puis, du coup, le jour où toi, ça s'arrête, et puis, tu leur dis, on sait jamais, si vous n'en avez pas quelque chose, moi, je suis dispo. Et c'est comme ça qu'ils m'ont régulièrement tous appelé. Il y a un monteur qui m'a appelé pour me dire dans la prod dans laquelle je travaille, il cherche quelqu'un. Le dire prod de l'époque m'appelle en me disant, je bosse sur un autre documentaire pour une autre boîte de prod. Bon, on cherche quelqu'un, c'est pour aller chercher les intervenants du doc chez eux, les amener sur le plateau de tournage et les ramener après. Bon,
oui, pardon, sur le papier, c'est pas fou, quoi.
Sûr, j'y vais,
J'ai 23 ans, mais moi, tu m'avais tellement fait rire.
C'est ça.
J'ai 23 ans, c'est trop fun, j'adore, je kiffe, j'y vais, je le fais, quoi.
Le monde t'appartient, t'as 23, t'as 25 ans, me propose d'aller chercher des gens pour aller sur un tournage, mais moi, bien sûr, évidemment, j'y vais.
Donc c'est aussi ça, alors c'est très important ce que tu dis, parce que donc c'est aussi ça, c'est aussi accepter, tu disais, s'il y avait un conseil à donner aux jeunes qui écoutent, c'est accepter, peut-être aussi, de démarrer par... Voilà, juste faire des choses simples, et c'est pas parce que j'ai un bac plus 5 ou un bac plus que tout de suite vouloir...
Exactement.
C'est un peu ça
et
aussi,
en plus,
quoi.
Ça tombe bien comme en plus, moi, j'avais pas un bac plus 5.
Oui.
J'avais en plus bien intérêt à apprendre les métiers d'en bas. Parce que je pouvais pas mettre en avant mes diplômes. Donc, il fallait montrer exactement au minimum ma motivation et au mieux, ce que j'avais fait. Ça me faisait des lignes dans le CV, encore une fois, le réseau qu'il a fallu construire. Et donc, ça passe effectivement par accepter tout ce qu'on me proposait. Alors, évidemment, j'acceptais pas n'importe quoi. Attention. Mais à partir du moment où ça restait dans le cadre de ça me faisait découvrir les coulisses des tournages.
Et c'est comme ça qu'on crée des liens et qu'on fait des rencontres et qui vont probablement compter. C'est ce que tu vas nous raconter dans quelques instants. Merci beaucoup Céline, c'est le moment de faire une première pause musicale et on se retrouve juste après, à tout de suite. I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. 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 Impossible.
betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises will wear. I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. How my heart is broken.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Céline Chalvidan, directrice des productions sport de TF1, est notre femme en lumière du jour. Alors Céline, on a parlé des réseaux, on a parlé de ton parcours, et donc tu intègres le groupe TF1 en 2007. C'est quoi à ce moment-là ton rôle exactement ?
Wow, à ce moment-là, je démarre en tant qu'assistante de production au service des bandes annonces et plus particulièrement sur un département web, internet. Alors on parle de ça
pour le internet.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, ils vont vraiment se dire quelle boumeuse, mais c'est vraiment ça. À ce moment-là, en 2007, internet c'est en train de se, enfin existe évidemment, mais il n'y a pas encore de contenu dédié à internet et donc il a fallu créer une cellule pour avoir des contenus dédiés. D'ailleurs qu'aujourd'hui, à l'époque, en 2006, les programmes, on mettait des making-of, on mettait peut-être quelques extraits. Des résumés, des bandes annonces, mais vraiment pas de contenu dédié pour faire vivre la marque sur TF1.fr à l'époque. Donc voilà, donc on a créé cette cellule-là et donc moi j'étais en charge de la production de tous ces tournages.
D'accord. Et donc pendant 2 ans, tu t'occupes de ça. Ensuite, en 2019, donc t'as comme un déclic.
En 2009.
En 2009, ouais. Parce que 2019, ça fait un peu.
C'est ça. Un peu loin.
En 2009, donc soit 2 ans après, tu as comme un déclic et une sorte de révélation. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, avec plaisir. On était dans une convention. C'était une journée organisée par la RH pour présenter un peu toutes les émissions du groupe. Et puis, de ce succès de la fiction, les divertissements, les magazines. Et à la fin de la journée, les producteurs des sports arrivent et nous expliquent tout simplement que finalement un match de foot qui se passe à Marseille ou à Barcelone, c'est pas les mêmes contraintes. Et là, je sais pas pourquoi, enfin, ça me paraît un peu ridicule, mais je crois que j'ai vraiment ressenti comme un coup de foudre, en fait. J'avais le cœur qui battait, j'étais un peu rouge, j'étais un peu émue et j'ai dit, mais j'adore. Et alors vraiment, un quart d'heure avant, j'aurais jamais imaginé basculer au sport. Mais vraiment, il s'est passé un truc physiquement et
qu'est-ce qui t'a plu dans ce discours?
Je crois que ça m'a parlé en fait. Je crois que tout ce qu'il disait, c'était le quotidien que j'avais envie de vivre en fait. Le fait de se dire, je disais tout à l'heure, pas qu'il n'y ait pas de routine, mais en fait quand il dit ce challenge là de dire à tel endroit c'est différent, j'adore.
Oui, et puis il y a ce projet parce qu'en fait pour bien comprendre, c'est qu'en fait à ce moment-là, donc en fait la prod démarre quoi. La TF1 prod. Démarre, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'ils veulent rationaliser. En fait, avant, il y avait des boîtes de prod un petit peu éparpillées partout, et donc là, tout d'un coup, le projet qu'on vient présenter, c'est On veut rationaliser et créer un truc global, hein.
C'est bien ça, en fait. C'est exactement ça, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, comme on était plein d'entités, on était, je sais plus, 7 ou 8 à l'époque, entités, qui appartenaient à TF1, et donc, du coup, ils se sont dit, bah, on va les rassembler en une seule, et donc, il faut découvrir, bah, qui vont être tes nouveaux collègues, exactement.
Voilà. C'était ça l'objectif. Donc, chacun vient se présenter, toi, tu les écoutes parler. Et donc là, tu ressens le palpitant.
Ah ouais, coup de fou. Je dis à ma RH, oh, j'adore comment on fait. Encore une fois, quand t'es jeune,
c'est ça, je lève le pas, je vais y aller. Oui. Moi, je viens y aller. Ouais. Et là, est-ce que t'avais une aspiration pour le sport initialement? Est-ce que tu pratiquais du sport ou
oui,
pas?
Oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Je parlais tout à l'heure de mon papa qui était pas du tout, pour le coup, dans l'univers de la télé. En revanche, j'ai toujours regardé avec lui des matchs de foot, la Formule 1 le week-end. En fait, ouais. Je sais pas si c'est une façon d'être avec lui, de profiter de lui, mais en tout cas, voilà, il a eu deux filles, il a pas eu de garçon. Je pense que du coup,
il a partagé sa passion pour le sport.
Donc ça, on a toujours aimé le sport chez nous. Ouais,
tout à fait. Okay. Il a eu deux filles, il a payé. C'est quoi le rapport?
Bah, du coup,
on va en parler tout à l'heure. Ah ça y est, t'as mis le doigt sur un truc. Voilà. Ok, on va en parler tout à l'heure de ça. En tout cas, comme je disais en introduction, Céline, on est quand même dans un milieu extrêmement masculin. Donc, comment est-ce qu'on fait aussi? Donc, alors déjà, Laetitia disait tout à l'heure, déjà TF1, déjà à la base, voilà, ça peut paraître inaccessible. Et là, de surcroît, dans un milieu quand même plutôt dévolu aux hommes, comment est-ce qu'on fait pour finalement trouver sa place et puis parvenir à ce niveau de responsabilité-là dans un univers comme celui-là?
Je crois que ma force a été de jamais me poser la question, en fait. C'est-à-dire que dès le départ,
pas de sujet.
En fait, pas de sujet. Je suis arrivée par la petite porte. Je fais mon travail. Je me suis pas posé la question de ce qu'il y avait autour, en face, à côté. Enfin, je fais mon job, en fait. Et puis en fait, c'est quand tu te retournes, tu dis dis donc, le chemin parcouru est sympa. Mais en fait, au moment où tu le vis, tu te poses pas la question. Et pareil par rapport aux hommes, j'ai toujours été très à l'aise avec les femmes, les hommes. Moi, j'aime l'humain, j'aime les gens. Donc
c'est pour ça que tu es là.
Ami, ça tombe bien. Donc c'est vrai que j'ai jamais senti de différence en fait de traitement par les journalistes.
Parce que c'est ça aussi.
Bah oui, c'est ça.
Ça peut être un non-sujet pour nous à la base. Et puis après, les comportements nous rappellent à leurs bons souvenirs, quoi. Tu vois, ça peut être ça aussi. T'as pas,
Non, honnêtement, je serais ravie de te raconter plein d'anecdotes croustillantes, mais en vrai, j'en ai pas parce que ça s'est vraiment toujours très bien passé.
On est tellement contente d'entendre ça.
Qu'il y a des trucs positifs.
Bah non, mais c'est ça, tu vois. C'est vrai que par les temps qui courent, là, bien sûr que c'est important, hein, que voilà, la parole se libère sur plein d'aspects. Et c'est aussi très important pour nous dans cette émission, telle qu'on l'a conçue avec Laetitia, c'est vraiment aussi cette idée de mettre en valeur aussi ce qui fonctionne, quoi, aussi ce qui marche. Et voilà, il y a de belles équipes qui fonctionnent, hommes-femmes. Toi, t'as été soutenue.
Ouais, moi j'étais soutenue parce que déjà si je refais effectivement le passage en arrière, finalement c'est que des hommes qui m'ont fait évoluer. La personne qui m'a recrutée, qui a accepté mon arrivée au service de sport alors que j'y connais absolument rien, j'étais vraiment autant sur la partie sport, on parlait de la partie technique tout à l'heure, j'y connaissais vraiment rien, autant la prod, je commençais à faire mon bout de chemin, mais vraiment les spécificités du métier technique, je n'en avais aucune idée. L'anglais, c'était pas foufou, c'était scolaire, mais comme j'en avais pas eu besoin depuis des années, on sait tout ce que c'est. Quand on ne pratique plus,
c'est
on perd. C'est un homme qui m'a dit, ok, allons-y, je te fais confiance, vas-y, on fait un essai. C'est aussi un homme dans mon ancien service qui m'a dit, ok, je sens que t'as envie d'y aller, je te laisse t'envoler, parce qu'il aurait pu aussi me bloquer.
Bien sûr.
C'est aussi un homme qui m'a proposé le poste ensuite de responsable de prod des magazines, et c'est aussi des hommes qui m'ont nommée directrice des productions aujourd'hui. Donc c'est vrai que entre les journalistes avec qui je partage un quotidien de boulot depuis une dizaine d'années maintenant, et puis les hommes qui m'ont fait confiance, c'est vrai que j'ai pas eu à me poser de questions. Exactement.
Alors, est-ce que dans ton entourage, ça s'est aussi bien passé pour les autres femmes ou pas?
En tout cas, dans mon entourage proche, oui. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance à TF1. Alors, je voulais dire que je suis hyper corporate, mais c'est vrai, on est hyper formé. Puis c'est que maintenant que je suis manager, je suis aussi hyper vigilante sur cette partie-là. On est vraiment.
Oui, ça a bougé. Hein.
Ça a bougé.
Bien
franchement,
sûr.
Ça a bougé. Bien là sûr. Aujourd'hui, on est formé sur toutes les marques de isme ordinaire, en fait. Tu vois, le sexisme, l'agisme.
Tout à fait.
Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'entendait pas parler avant. Donc, je pense que ça a quand même pas mal évolué. Je fais partie d'une génération, donc on est 43, qui on sait que ça n'a pas toujours été le cas avant. J'ai effectivement eu des copines, j'ai évidemment comme tout le monde entendu malheureusement beaucoup trop d'histoires, mais moi dans mon entourage proche, dans le boulot, dans mon domaine, bah, j'ai jamais eu de soucis.
Ouais, c'est top, ça fait tellement du bien d'entendre ouais. ça.
Mais hein, ni voilà. de harcèlement, ni, enfin, oui, vraiment, je, ni de phrases déplacées, enfin, vraiment, je.
On touche du bois pour que ça continue.
Non, mais c'est pour ça que
Non, mais ça existe aussi, c'est important de le dire. Non, mais voilà, hein, ça fait du bien de l'entendre. Et on a besoin d'entendre aussi, tu vois, ce genre de discours. Parce que voilà, hein, quelque chose de positif, parce que ça marche aussi. Alors bien sûr, donc là on évoque le rapport en interne, hein, les rapports hommes-femmes en interne, mais il y a quand même aussi le rapport à l'extérieur, parce que t'as été amené à voyager, du coup aussi, hein, à gérer des événements à l'extérieur. Est-ce que tu peux, moi il y a moi l'anecdote du Japon là, du japonais 2019, je crois que ça date quand
2019,
même.
Ouais,
tu peux nous raconter ça ou pas?
Oui, bien sûr. Coupe du monde de rugby 2019, je pars du coup pour gérer toute la Coupe du monde de rugby sur place, donc je suis la seule interlocutrice TF1 sur place, donc avec moi j'ai 4 techniciens français et le reste c'est une vingtaine de techniciens locaux, parce que c'était évidemment trop cher et puis pour des raisons RSE, pour toutes les bonnes raisons, on n'a pas délocalisé toutes les équipes de France. Donc du coup, t'arrives là pour le coup...
Tu connais personne.
Je connais personne, ouais. Seule femme, pour le coup, vraiment totale
au rugby.
Dans
et puis le rugby.
Eh ben ça, non, t'es trompe-toi. Il y a de plus en plus de femmes. Ouais. Et heureusement, ça c'est quand même super
bien.
Bon,
on va en parler aussi.
Mais
après.
C'est vrai que sur les métiers très techniques, où les gars vont tirer des câbles, c'est vrai que c'est encore très majoritairement masculin. Et là, en l'occurrence au Japon, c'était que des hommes. Et c'est vrai que parfois ça a pu être compliqué des petits moments de solitude entre la barrière de la langue, tout était en anglais. Et puis tu donnes. Et puis après culturellement aussi, moi on m'avait prévenu, attention, il faut pas t'énerver, il faut pas t'agacer, il faut parce que culturellement pour eux quand si tu cries ou tu t'énerves, tu peux perdre vraiment toute crédibilité. Donc j'étais très vigilante à ma manière de me
comporter. Bien articuler et à parler.
C'est pas évident parce que il faut être très vite crédible en fait quand t'arrives comme ça devant 30 hommes ou 30 personnes de manière générale. Mais c'est vrai qu'encore plus quand c'est les étrangers que t'arrives là. Je suis en radio, mais je suis blonde. T'arrives sur un terrain, il faut tout de suite montrer que tu sais de quoi tu parles. Et en fait, je crois que c'est ça qui fait un peu la différence, c'est que si tu montres très vite que t'es à ta place, que tu sais de quoi tu parles, en fait, il y a pas de sujet, quoi. Okay. Que tu sois jeune, pas jeune, femme ou homme, ça déroule comme ça doit
dérouler. On t'a pas embêté plus que ça. Et donc du coup au final voilà. Mais ça tu l'as ressenti quoi. T'as ressenti qu'il fallait à ce moment-là.
Bien sûr.
Que tu sois.
Que je me canalise.
Ouais.
Parce que alors moi ça m'interpelle parce que canaliser de pas devenir hystérique souvent on peut dire c'est ça.
Non, je rentrerai pas pas dans ce schéma. Non mais pas hystérique mais moi j'ai une personnalité qui est très je suis très spontanée en fait, c'est-à-dire que évidemment pas hystérique, j'espère pas, mais c'est vrai que je suis dans la vie pro comme dans la vie perso, je suis la même, c'est-à-dire que je vais m'enthousiasmer quand je suis contente ou inversement quand je suis pas contente, ça va se voir et je vais le dire. Donc c'est sûr que avec l'âge, avec l'expérience, tu doses aussi. Il y a des moments où tu sais qu'il faut pas montrer que t'es impressionné ou pas montrer à l'inverse que t'es agacé. Voilà, c'est aussi l'expérience.
Et là au Japon, c'est vraiment le challenge un peu qui t'a permis de d'oser.
Oui, je crois qu'il y a eu un petit switch où en fait quand t'es la seule représentante de ta chaîne, ça a une valeur. C'est aussi une image que tu véhicules à l'étranger et que du coup t'as pas trop le droit à l'erreur. En fait, tu peux pas te permettre d'être décrédibilisé et que du coup on remette en question un ordre ou en tout cas une recommandation que tu ferais quoi.
Ouais, donc il faut s'adapter quoi.
Ouais,
parce que ça dure 2 mois hein, quand même.
Ça dure 2 mois, ouais, c'est long.
C'est vraiment
très, très long.
T'y es resté vraiment tout le long de la Coupe du monde là. Top. Bah écoute, merci beaucoup Céline, c'est le moment de faire une seconde pause musicale. À tout de suite.
Il est temps d'aller pousser. Les abdos pour mieux encaisser la vie.
vie c'est musclé. Ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever.
Allez, 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 allez.
Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller.
Allez, 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 allez.
Abdo, Gips, pompe, barre. Abdo, Gips, pompe, barre. Enchaîne les squats, enchaîne les squats. Enchaîne les squats, squat, squat. Abdo, Gips, pompe, barre. Abdo, Gips, pompe, barre. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac.
Allez, va chercher le chrono. Va chercher le chrono.
Tous ensemble à la ligne d'arrivée. Tous ensemble à la ligne d'arrivée.
On va taper dans le cardio. On va taper dans le cardio.
On va viser dans le coach. Tu vas savoir qui est coach.
Faut taper le cardio. Les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé. Ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever.
Allez, 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 allez.
Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller.
Allez, 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 allez.
Abdo, Gips, pompe, barre. Abdo, Gips, pompe, barre.
Allez.
IDFM, 98FM.
Vous êtes sur IDFM Radio et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, Céline Chalvidan, directrice des productions sport de TF1, est notre femme en lumière du jour. Alors Céline, en 2021, 4,8% du temps de diffusion des compétitions sportives, à la télévision en général, hein, on ne parle pas que de TF1 là bien évidemment, était occupé par du sport féminin. 2021, seulement 4,8%, contre 74% à peine un petit peu plus pour le sport masculin. On est à 21% pour le sport mixte. Qu'est-ce que t'inspire ces chiffres? Est-ce que t'as l'impression que ça avance?
Alors j'ai pas, enfin je connaissais pas ces chiffres-là,
ça a l'air
mais
comme, hein.
Oui oui non, mais c'est juste que je les connaissais pas, mais oui moi je pense que ça avance carrément parce que justement tu dis ces chiffres-là, mais c'était comment il y a 4 ans ou il y a 8 ans, donc en fait il faut aussi voir tout le chemin qui est parcouru avant. Aujourd'hui, bah, typiquement on est mardi 2 décembre, je vous invite à regarder ce soir le championnat du monde de hand féminin sur nos antennes.
On adore.
C'est vrai pour le
mais
coup.
Mais on valorise aussi le sport féminin.
Exactement. Exactement, nous on a fait du rugby dire. Féminin.
Alors
là,
comment, c'est quoi ton, tu vois, est-ce que t'as un peu le moyen d'influencer un petit peu ça, en tout cas de promouvoir, tu vois, de là où tu es à ta place, est-ce que ta voix porte un peu, est-ce
non.
que tu peux,
non,
ouais, hein,
non,
c'est pas
non,
facile ça.
Non, c'est pas facile, et puis surtout c'est pas mon rôle aussi,
voilà,
c'est-à-dire
je
que
comprends.
La partie achat des droits, elle est pas chez moi, elle est vraiment c'est sur ça. La partie juridique. Et puis nous justement en fait, moi mon discours il est plutôt je vais traiter les femmes de la même manière que les hommes en fait, donc du coup quand on va diffuser une compétition sportive, notre ambition dans la chaîne, c'est qu'on va mettre les mêmes commentateurs premium, tu vois, qui sont Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, c'est sur une compète masculine comme féminine. Pour nous, en fait, on veut pas faire de différence. Nos plateaux, on les dimensionne de la même manière avec du public. On a fait de l'euro féminin, enfin, on a diffusé l'euro féminin là en juin, juillet dernier.
Oui, on les a vachement plus vus, en fait. Enfin, moi, j'ai eu l'impression, ouais. J'ai l'impression, c'est deux, trois dernières années, enfin, surtout deux dernières années, là, qu'on a beaucoup plus de femmes maintenant.
Est-ce que les JO ont participé, à ton avis?
Moi, je suis pas sûre qu'il y ait un effet JO parce que malheureusement, et pas que d'une manière sur les femmes, il y a aussi des compétitions qu'on a découvertes aux JO et puis en fait, tu te rends compte qu'après, elles sont pas forcément visibles.
Alors par rapport à ça, il y a quand même une bonne nouvelle, hein. C'est que juste et ça, alors ça, je suis allée voir, j'ai découvert, seulement 25% des Français sont au courant.
Ah.
Que on a atteint l'égalité des genres pendant les JO de Paris 2024. En fait, pour
super.
La première fois dans toute l'histoire
vois,
de
l'histoire,
tu savais pas non plus,
bah,
tu fais partie
tout.
Des voilà.
Comme quoi, il faut vraiment écouter.
Voilà, c'est
des
non mais c'est
radio.
Vraiment une de
Non mais voilà, tu vois, c'est moi aussi, tu vois, ça m'a surpris. J'étais tout à fait comme toi. Ben alors, ouais. Je fais la maline, mais tu vois, il y a quelques jours, j'en étais pas là du tout. Et donc effectivement, c'est vraiment une première pour le sport féminin. Voilà, JO de Paris 2024, on a atteint une parfaite égalité des genres dans la représentation. Donc ça, c'est vraiment une chouette nouvelle aussi. Donc du coup, voilà. Alors toi-même, donc tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Toi-même, est-ce que tu fais du sport, Céline? C'est quoi ton rapport au sport?
Ah là 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 là. Si mon mari écoute, il va dire, il va pouffer derrière la radio. En disant, oui, te fais pas passer pour une grande sportive. Non, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours fait du sport. C'est vrai qu'après, on se trouve toujours des excuses, de, il pleut, il fait froid, j'ai la flemme, tout ça, mais j'ai toujours fait du sport. J'ai fait du patinage artistique, j'ai fait de la danse beaucoup, j'ai fait de la boxe, fait beaucoup de...
Ah oui,
j'ai,
oui
quand même. J'aime ça, je crois que j'ai besoin de ça aussi pour
Et là, actuellement, évacuer. Tu en fais ou t'es en pause?
Je fais de la boxe.
De la boxe?
C'est oui, non, mais, non mais quand même.
4 ans.
4 ans.
Ouais, boxe française, donc tu vois. Ouais, voilà, là, c'est pareil. Il y a beaucoup de nanas aussi, là.
Ouais, on a un groupe féminin.
Ouais,
on a un groupe.
Alors, pour le coup. Ça se mélange pas, c'est pas mix?
Si, alors, si, c'est complètement mix. Mais par contre, il se trouve que c'est même pas un choix de faire un groupe féminin. C'est que l'horaire, c'est le vendredi soir à 20h30. Et en fait, le seul horaire qui colle avec mon emploi du temps, c'était celui-là. Et en fait, c'est super parce que on s'entend toutes hyper bien. On vient toutes d'univers, de milieux hyper différents. Et c'est vraiment génial.
C'est chouette en tout cas de pouvoir se retrouver entre femmes, faire du sport et puis aussi de se dire que c'est un sport aussi qui est mixte et qui intègre la mixité dans...
Donc
dans...
C'est...
Ouais, tu veux dire, vas-y, dis-moi bien.
Non, pardon, bah oui.
Et donc, alors, tu trouves du temps, pour faire ce sport, pour se retrouver entre femmes le vendredi soir.
Entre femmes sur un sport quand même.
Ouais.
Enfin, et qu'est-ce parce que la boxe artistique, c'est quand même pas le même délire que la boxe, quoi.
Non.
Tu aimes le grand écart, hein, quand
même. Mais surtout, j'ai beaucoup moins de souplesse qu'à l'époque où je faisais de la danse ou du patinage, donc il faut s'adapter aussi.
C'est ça.
Ce qui me plaît, je crois que c'est l'état d'esprit aussi, tu vois, le côté, nous, enfin, on fait pas de la bagarre, en fait. On apprend vraiment techniquement les gestes.
On saute à la corde.
Ah, le côté cardio, c'est un sport qui est hyper complet entre les jambes, les bras, les abdos, puis j'avoue que l'état d'esprit, moi, j'aime.
Et le combat, beaucoup. Non? T'as déjà fait des combats?
Ouais, non, pas jamais. Enfin, sur que dans les dans en sparring, en ring, comme on dit. Voilà, mais on sparring entre nous, tu vois, pas du tout.
Pas de compétition.
Ah non.
Je t'inspire pas.
Non.
Tu tiens ton nez, quoi.
Ouais. C'est ça.
Un petit quand même. Voilà, un petit soupçon de coquetterie.
En vrai, j'ai pas le niveau du tout.
Est-ce que tu peux nous rappeler la différence, juste parce que pour ceux qui nous écoutent, entre la boxe anglaise et française? Parce que je crois que dans l'un des deux, on n'utilise pas les poings. Est-ce que tu fais les poings et les jambes ou que les poings? Actuellement dans ton sport, la boxe.
Que les poings.
Que les poings. Donc c'est la boxe anglaise, on utilise aussi les jambes. Ok. Alors, au-delà de la boxe, tu trouves également du temps pour d'autres activités qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, de la cravate solidaire?
Ah, super. Bah, merci déjà de les mettre en avant. C'est super sympa.
Mais nous, on a. Bah attends.
Ah oui, on ne peut que adhérer au.
Merci pour eux. La cravate solidaire, c'est une super association en fait qui aide les personnes en réinsertion. C'est Alors, je sais pas comment expliquer ça. En fait, nous, il y a deux coachings. Il y a un coach RH et un coach image. En gros, on part du principe que il y a un certain nombre de personnes qui n'ont jamais été formées ou aidées, ont pas eu la chance d'avoir un entourage ou des parents qui leur expliquent comment passer un entretien. Donc, ça peut être des gens des réinsertions. Moi, j'ai eu des gens qui sortaient de prison, des femmes qui ont jamais travaillé de leur vie et qui ont besoin un moment donné.
Qui n'ont pas du tout les codes. Qui ont peut-être pas confiance.
Ah, mais complètement. Et puis, qui ont élevé plusieurs enfants parfois qui du coup ont été déconnectés si tu veux de comme tu dis des codes aujourd'hui et malgré tout il y en a, donc c'est important quand même d'en donner. Et en fait donc les coachs images vont leur proposer une tenue vestimentaire, c'est-à-dire qu'en fait ils sont absolument pas déguisés, attention, mais par contre par rapport un peu à leur projet de vie, par rapport à qui elles sont, il ou elle, hein, elles c'est les personnes, ils vont proposer une veste, une chemise, une tenue en fait pour laquelle ils peuvent se présenter à l'entretien d'embauche.
Donc, ils prêtent la tenue
ou ils offrent la tenue?
Ils offrent la tenue.
Exactement. Donc, c'est un petit appel au don au passage. Donc, si vous avez des tenues après l'hiver, on rentre plus trop dans les chemises, dans les robes, dans les vestes, où on se dit je les garde parce que quand j'aurai perdu du poids, je les remettrai. Vous pouvez faire une bonne action.
Alors,
vous les
comment
déposez.
On fait
vous allez sur le site de la cravate solidaire. Il y a aussi une page Instagram.
D'accord.
Il y a deux endroits pour les
lieux de collecte.
De lieux de collecte, exactement. Et donc, du coup, vous les déposez. Et après, ils sont crier, parce qu'il y a des fois, faut pas qu'il y ait évidemment de trous, faut pas que ce soit
sur les deux sens. Donc les cravats.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Alors moi, je suis dans le 13e, au métro national.
D'accord. Parce que toi, tu vis à Paris. Hein,
moi, je vis à Paris. Ouais, ouais, exactement.
D'accord.
Et donc, c'est super parce que, ça permet d'avoir déjà donné une seconde vie aux vêtements. Et puis,
donc les vieilles, enfin, voilà, les cravates, qui sont encore en bon état.
Oui, les chaussures aussi. Les chaussures, très important parce qu'on n'a pas toujours
les choses comme ça.
Et donc, moi, je fais pas partie des coachs images, je fais partie des coachs RH. Et justement, ça, la formation, les entretiens. Donc, en fait, ils arrivent avec un projet.
Tu formes aux entretiens.
Exactement. Ils arrivent, souvent, Pôle emploi les envoie, ils ont un entretien, quelques jours ou quelques semaines plus tard. Et puis, ils arrivent avec leur projet en disant, voilà, moi, je dois, pour vous donner un exemple, j'ai le souvenir la dernière fois d'un jeune homme qui, devait travailler dans l'univers funéraire. Il devait porter les cercueils et c'était il devait faire cet entretien-là. Et puis, on démarre et il fait un entretien un peu blanc. On se met dans la position du vrai employeur et on va lui poser les questions comme vraiment un entretien blanc.
Entretien, ouais.
Et puis à la fin, on débriefe. Et on voit qu'est-ce qui est bien passé, qu'est-ce qui est mal passé, et on le coach. Et il avait du mal à trouver un peu comment se vendre. Il dit, mais moi, je fais les marchés, je sais pas. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? Tu fais les marchés, ça veut dire que t'es courageux, ça veut dire que tu te lèves le matin, ça veut dire que t'es fort physiquement. Il pleut, il fait froid, il faut soulever les caisses. Tout ça, c'est des arguments, tout ça, c'est des forces qu'il faut que tu mettes en avant. Et en fait, il nous a regardé en disant, mais ah bah ouais, j'y ai pas pensé. Et en fait, notre objectif, c'est ça, c'est d'essayer de mettre en valeur qui sont eux pour qu'ils puissent se vendre,
prendre confiance,
exactement,
mais leur faire prendre conscience
complètement. Hein, et ça, c'est génial.
Et confiance, exactement. Ah. Et alors, donc toi, tu es bénévole pour eux. Mm-hmm. Donc, quand tu interviens sur quoi? Sur une journée, plusieurs heures, plusieurs jours? Comment ça se passe?
C'est sur des demi-journées, et du coup, effectivement, t'arrives et t'as 4, 5, 6 en fonction des séances, personnes, on est plusieurs groupes dans des petites salles. Et puis, donc, ils passent d'abord au coach image et quand ils arrivent chez nous, dans notre petite box, on est deux généralement. Et donc, ils sont habillés tout beau.
Ça y est, ils sont tout beaux, ouais, voilà.
Ouais, en fait, ça les met en condition pour un vrai entretien d'embauche.
Ça change tout, hein.
Et ça change tout. Et vraiment,
ça change tout.
Et alors, parfois, il y en a qui sont un peu intimidés parce que justement, c'est la première, on leur dit, vous êtes super beaux, vraiment, ça vous va super bien. Et dire, voilà, j'ai l'impression d'aller à un mariage. C'est vraiment chouette et ça nous apporte autant qu'à eux, je pense, parce que.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi c'est important pour toi le bénévolat? Qu'est-ce que tu.
Moi, je pense que j'ai la chance d'être bien née. Si tu veux, je suis née femme dans un pays riche, du bon côté de la planète, quoi. Et puis j'ai aussi eu des parents qui ont été là pour moi, qui m'ont drivée, qui m'ont dit non, ça c'est pas bien, Céline, ça tu peux pas faire ça, ça oui ça c'est bien, qui m'ont coachée quand j'ai fait mes premiers entretiens, quand j'ai bossé ado dans des boutiques de vente pour gagner des sous et m'acheter ma voiture. Mes parents étaient là pour m'aider. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là et donc du coup c'est aussi une façon de transmettre.
La question de la transmission.
Ouais, exactement.
Tu parlais du réseau, tu parlais de les gens qui t'ont, ces hommes qui t'ont aussi soutenu, les hommes et ces femmes qui t'ont soutenu dans ton parcours. Donc là, c'est un petit peu aussi.
Exactement. Donner aussi un peu. Exactement.
Ouais. Et alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais le 31 décembre?
C'est quoi ton programme?
Mais on sait tout,
On est bien renseignés.
Mais oui, je vois ça, vous avez fait un super boulot. Il y a beaucoup de villes qui organisent ça. Moi, je travaille, j'habite à Paris et donc du coup, la mairie de mon arrondissement organise un 31 solidaire. Et donc, il y a des dons qui sont apportés par tous les marchés, des commerçants. Et nous, le 31, je dis nous avec mon mari, on vient aider à préparer et servir le repas. Et c'est génial parce que du coup, il y a des gens qui sont seuls, des gens qui sont âgés, des gens qui sont démunis, des gens qui sont complètement qui sont à la rue. Et en fait, en tout cas, l'objectif, c'est que ceux qui sont seuls, venez tous, il fait chaud, on va bien manger, il y a un concert, il y a un groupe qui vient chanter. Et vraiment, on passe un moment.
Donc c'est la mairie du 13e.
Du 14e.
Du 14e,
pardon.
C'est
la mairie du 14e.
Ouais. C'est eux qui organisent tout de A à Z.
Exactement. Ouais, c'est eux qui. Et puis donc il y a.
Et donc vous donnez de votre temps.
Exactement. Il y en a qui sont encore plus investis que nous. Hein. Nous, on fait aussi avec le temps qu'on a. On n'est pas.
Ouais, mais le 31 décembre. Donc ça veut dire que pendant que tout le monde est en mode pump it up, paillettes, tout ça.
Oui, alors après moi je suis pas complètement Mère Teresa non plus. Hein. Quand je reviens à 1h du matin, on se prend un petit verre et puis on trinque
et on
continue quand même. Okay.
C'est chaud. Mais en tout cas c'est une belle façon aussi de remercier la vie. De faire un peu de don de soi. En tout cas, merci beaucoup Céline pour ce témoignage. On fait une dernière pause musicale et on se retrouve juste après pour l'interview Confidence Spotlight. À tout de suite.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous?
Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir.
Mais si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré tout.
Merci bien pour la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur. De tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonne.
Si je m'endors, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte.
Si je m'endors, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le restant vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le restant vous. Il fut un temps où j'étais.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière. Et avec nous, Céline Chalvidan, directrice des productions sport de TF1, qui va se prêter dans quelques instants à l'interview Spotlight. Céline, tu es prête?
J'ai peur.
Ah ben oui, parce que là, elle ne sait rien.
Eh oui. Alors, dis-nous, c'est quoi le film que tu regardes quand tu as le moral dans les chaussettes?
Je crois que c'est Dirty Dancing.
Ah ouais, j'avoue, ça, j'adore. C'est, ouais, non, mais
c'est la base.
Je crois que c'est Dirty Dancing.
Non, mais tu vois, on peut même pas dire que c'est le truc inavouable, machin. Pas du tout.
Pas du tout.
On assume pleinement. On est
d'accord. On laisse pas bébé dans un coin.
On laisse pas bébé dans un coin. J'adore cette phrase, j'adore. Alors, quel est le moment où tu as l'impression d'être une super héroïne?
Ah, c'est dur, ça, comme question, dis donc.
Le bébé n'est pas dans un coin.
T'as le droit de réfléchir un petit peu.
À quel moment tu te sens comme une héroïne?
Je crois que je me sens jamais comme une super héroïne. Je crois que il y a pas de moment où
moment où tu te dis
waouh, j'assure.
Ah ouais, waouh, quand même là.
Si, forcément, il y en a dans le boulot quand tu fais une finale de Coupe du Monde, que tu fais le record de la télé et que tu fais une prod parfaite. Oui, tu sors de là, tu te couches et tu dis ah oh, quand même, ouais, je suis fière de moi.
Voilà,
ouais,
okay.
C'est vrai.
Parce que
ouais,
c'est quoi une prod pas parfaite du coup? Ça serait quoi par exemple?
Oh bah d'une petite coupure de faisceau par exemple. Ah, oui. Tu te rends pas compte, mais des fois tu vois un petit écran noir. Pour toi c'est rien, mais alors moi c'est chez nous c'est branle-bas de combat, c'est 14 réunions derrière.
Ah, ouais. Donc quand tout se passe bien, là tu te dis waouh, ouais, j'ai assuré.
Ouais.
C'est chouette.
Bon, ça marche. Alors, tu nous as dit donc avoir pratiqué tout un tas de sports différents. Ton sport préféré?
À faire ou à la télé?
Alors, la question vient après.
Ah zut. Ouais. Ben, je crois que je vais te répondre le patinage artistique.
À faire déjà. Ah, ouais.
Je crois que je vais te dire le patinage artistique. Du coup, je spoil ta deuxième dernière question peut-être, mais je crois que avoir et à faire, je crois que
Ok, donc ouais. Avoir et à faire.
Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le patinage artistique?
J'aimais, alors parce que j'en fais plus maintenant, mais c'est peut-être le sentiment de liberté où en fait tu glisses sur la glace ou t'as l'impression d'être Surya Bonali pour les plus âgés d'entre nous et d'avoir une grâce totale. Et puis après que tu regardes les vidéos que tes parents faisaient et en fait tu te rends compte que t'étais pas du tout gracieuse, mais c'est pas grave. Au moment où tu lèves, t'as la main, t'as la jambe qui part, tu tournes, c'est poétique.
Ouais, je crois que
j'aimais ça.
Ouais, non, c'est ça, ce sentiment, cette sensation de voler un peu. Ouais. La glisse, d'accord, pas forcément de rapport avec le côté, tu vois, la danse, le côté esthétique, le côté...
je crois que c'est pas ça qui me plaît.
Le plus fort.
Exactement, je crois que c'était plutôt...
C'est cette sensation de liberté.
Et puis le patinage, c'est la force, il faut être tonique.
C'est ça.
Et en même temps, on vient de le dire, il faut être gracieux. Enfin, je crois que j'aime beaucoup ce sport.
C'est le mix des deux. Ok, mais ça te correspond bien, en fait, en vrai. Hein.
La force, l'élégance,
tout ça. Bien sûr, tu vois, le mix des deux. Ok, alors donc du coup, je ne sais pas si finalement c'est... bon voilà, je sais pas si tu vois, c'est tout à fait la même question, mais peut-être pas tout à fait. De quel sport féminin es-tu le plus admirative? Et tu vois, et quel est celui que t'aimerais qu'on voit plus souvent à la télé du coup?
Alors je vais te répondre le rugby féminin. Déjà parce qu'on vient de diffuser la Coupe du Monde de rugby féminine, donc du coup j'ai regardé beaucoup tous les matchs et vraiment je suis quand même super impressionnée. Déjà parce que le rugby masculin, je suis hyper impressionnée déjà par la force, la violence, le courage. C'est pas évident quoi. Vous les voyez, ils sont 6, 7, 8 devant vous.
L'engagement,
et puis vous êtes en train de courir
physique,
avec le ballon. Ouais. Et donc homme comme femme, je trouve que c'est un sport qui que j'apprécie beaucoup. J'adore les valeurs. Je trouve que c'est vraiment un beau sport.
Okay.
Et donc pour les femmes, ça marche aussi encore plus, quoi.
Ok, ouais, t'es admirative de ça. Ok, d'accord. Et donc ça aussi, c'est ce sport aussi que tu aimerais qu'on voit plus souvent à la télé?
Est-ce non,
qu'il
parce
y en a
que...
un où tu te dis tiens, c'est pas assez connu, on sait pas assez que les femmes font ça?
Je crois pas.
Ouais.
Je crois pas parce que on fait du hand, on fait du basket, on a fait du basket féminin, on fait du foot, on fait du rugby. Bien sûr, on pourrait toujours en trouver, on pourrait toujours faire mieux et on pourrait toujours tout montrer, mais là comme ça, j'en vois pas.
Ouais ouais. Ouais déjà ouais, le rugby,
c'est déjà pas mal, hein.
Déjà rugby féminin, c'est déjà pas mal du tout. Et alors si tu devais nous raconter ta plus belle anecdote en tant que bénévole, ça serait quoi?
Je crois que c'était justement le 31 décembre de l'année dernière où t'es forcément très touché par des parcours de vie, en fait, où des gens, donc le concept, c'est donc il y a des dons, j'en parlais tout à l'heure, et puis après on demande à ceux qui veulent ou qui peuvent apporter quelque chose. Et donc il y avait un couple, tu sentais qu'ils avaient très 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 peu de moyens, et ils sont arrivés avec des petites galettes Vaza, enfin des petits trucs comme des trucs de petit-déj, tu vois,
en disant bah
voilà, on avait voilà, exactement
là, ouais.
Et voilà, on avait que ça, est-ce que on peut, ben oui, c'est super, merci beaucoup. Et en fait ça m'a vachement touchée parce que quand ils sont partis, ils disent est-ce qu'on peut vous serrer dans les bras, c'est vraiment génial, on a passé une soirée extraordinaire, merci. Enfin, et en fait j'ai les larmes qui montent, en fait il y a des gens, je sais pas pourquoi, tu sais, ils te touchent, ouais. Tu sens une énergie, quelque chose, et en fait ils m'ont vraiment touchée parce que tu sentais que c'était tellement sincère. Ils sont arrivés avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire ces tartines pas bonnes. Et puis, mais ils l'ont apporté alors qu'ils avaient que ça. Et puis ils sont repartis avec le cœur tout chaud.
Rempli.
Et
ouais,
voilà, tu sors de là, tu dis mais moi tous les soirs je signe quoi.
Voilà.
Ah ouais, vraiment ça m'a ému. Puis il y a mille histoires comme ça de belles rencontres où t'as les gens qui dorment dans la rue et qui arrivent à l'entrée et ils veulent pas laisser au vestiaire leurs affaires, c'est toute leur vie en fait. Donc ils ont 3-4 sacs, des caddies, et ils veulent surtout pas les laisser parce que imagine, on leur vole, ils ont plus rien quoi. Et donc ils veulent pas, donc tu leur dis voilà, je reste là, je suis au vestiaire, je bouge pas,
tu les rassures.
Et puis quand ils reviennent toutes les quarts d'heure pour vérifier, et forcément ça te touche parce que tu te dis ouais, effectivement moi je donne 4 heures de mon temps.
Ça fait combien de temps que tu fais ça?
Ce sera la troisième année là, et puis on est parti pour, on est vraiment très touchés par ça, donc ouais, on
va continuer. Et ouais. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient s'engager comme toi, est-ce que c'est facile à faire? Comment on fait?
Bah aujourd'hui c'est quand même facile parce que d'abord il y a des sites je-m'engage.fr où il y a énormément de propositions dans toutes les villes. Et ben faut vraiment regarder je-m'engage.fr dans toutes les villes, banlieue, Paris, dans vraiment partout. Et puis il y a des missions ponctuelles parce qu'on est tous sur la patte. Tous les mercredis après-midi ou tous les soirs de disponibles, il y a maraudes, voilà. Comme des il y a vraiment plein de choses qui correspondent vraiment à tout le monde. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui sur les sites des mairies, c'est aussi écrit.
Et ça demande pas de prérequis.
Non, du temps, de l'envie.
Voilà.
Ouais. Et on peut se lancer. Mais en tout cas, merci beaucoup Céline d'avoir joué le jeu. Notre émission touche à sa fin. Et avant de la clôturer, que peut-on souhaiter à cette femme lumineuse que tu es?
Oh bah la santé comme tout le monde hein, je crois que j'ai envie de dire la chose la plus importante c'est la santé. On peut souhaiter plein de choses, continuer d'être heureux tout ça, mais je crois que
la santé
si on perd la santé, on perd tout le reste, donc de continuer à être en bonne santé et ce sera déjà extraordinaire. Le reste ça suivra.
En tout cas, c'est ce que je te souhaite.
Bah merci vous aussi
pour 2026 qui approche maintenant à grands pas.
Merci pour l'invitation
carrément. Mais merci à toi Céline, merci infiniment pour ce partage. Voilà, pour cette belle générosité qui te caractérise et puis voilà toute cette belle énergie. On a adoré échanger avec toi. On te souhaite le meilleur pour la suite. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 19h en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
IDFM Radio, le média valdoisien. Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val-d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val-d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuite destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du Barreau du Val-d'Oise. Barreau du Val-d'Oise, l'expertise juridique à votre service.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? c'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. Artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, la servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val-d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur,
théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.